Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Reine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une Montpellier-Reine, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, la déambulation d'un Montpellier que cette émission propose souvent va nous conduire à Figueroles, au 10 rue Haguenau, dans un lieu singulier, unique à Montpellier, un lieu de débat, de rencontre, de spectacle, mais pas seulement. Ce lieu s'appelle la Carmagnole. Deux guides vont nous y entraîner pour nous faire partager son histoire, ses orientations, ses activités. Fred Allard et Francis Viguier figurent parmi les créateurs et les animateurs de la Carmagnole. Ils en sont aujourd'hui les porte-parole et je les remercie d'avoir répondu à mon invitation. Un point commun évident dans votre parcours respectif. Francis Viguier, votre carrière professionnelle s'est déroulée à la Poste, dans des centres de tri, ailleurs et ici. Militant syndical à Sud-PTT, vous avez contribué à la construction de l'Union syndicale solidaire, qu'on appelle maintenant Solidaire. Vous avez été conseiller municipal de 2008 à 2014 sous l'étiquette de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, aujourd'hui NPA, nouveau parti anticapitaliste. Fred Allard, votre engagement s'est traduit à l'UNEF et au Parti communiste que vous avez quitté avec la vague de ce qu'on appelait les rénovateurs. Vous avez été journaliste à la Marseillaise, puis vous avez rejoint l'agence de communication publique Anatome. Vous en avez dirigé l'équipe Montpellier-Reine avant d'en être écarté ou expulsé, selon le mot qu'on choisit. Vous avez poursuivi votre trajectoire professionnelle en indépendant au sein de votre propre structure, stratégie et contenu. L'un et l'autre aujourd'hui retraités, vous avez depuis 5 ans donné, comme d'autres, beaucoup de temps et d'ardeur à la Carmagnole. Avant d'y aller à la Carmagnole, racontez-nous votre Montpellier. Alors Francis Viguier, quels sont les lieux à Montpellier qui figurent pas sur les cartes postales que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Bah, écoutez, je vais commencer par mon quartier, puisque j'habite au début du boulevard Renouvier.
Depuis longtemps?
Depuis 22 ans, ce qui est quand même pas mal dans une tranche de vie. Donc c'est un quartier que j'aime beaucoup. C'est un quartier vivant, où il y a des commerces, où il y a une vraie vie. C'est un quartier où il y a une diversité, et qui, de mon point de vue, est très agréable, et je suis enchanté de ce point de vue-là que la Carmagnole puisse être dans ce quartier. Je dirais aussi que je considère qu'une des réussites à Montpellier, ce sont les médiathèques. Je vais beaucoup, moi, à la médiathèque Victor Hugo, qui est avenue de Toulouse et autres. Je trouve ce que je souhaite, les gens sont compétents, sympathiques, et donc je pense que réellement c'est une réussite. Donc c'est, pour pas tout citer, mais mon quartier, les médiathèques que je fréquente, je pense que c'est des bons points.
Très bien. Et vous-même, Fred Allard, vos lieux favoris, ceux auxquels vous êtes attaché ou dont vous parlez à vos amis ou parents de passage?
Ah, c'est un petit peu difficile pour moi de dire ça parce que moi je dirais que je suis un Montpelliérain impur jus. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis né à Béziers. J'ai passé toute mon enfance et ma scolarité à Lodève. Je suis venu faire mes études universitaires à Montpellier et je ne l'ai plus quitté. Donc ça veut dire que je suis vraiment par contre nérolté pur jus. Mais par contre, mon rapport à Montpellier, c'est quand même nourri pendant toute mon enfance d'un certain antagonisme. Ouais. Quand on est bitérois, Montpellier, c'est quand même une ville avec laquelle on a une certaine... on voit une rivalité. Donc je suis venu à Montpellier avec aussi un petit peu ce regard. Alors je dirais qu'à la fois, je ne l'ai jamais perdu. Donc moi, je n'ai pas une déclaration d'amour à faire à Montpellier, très franchement.
Et en même temps... de désamour.
Mais pas de désamour non plus, parce que la réalité, c'est qu'en fait, je ne peux pas la quitter. Aujourd'hui, je serais tenté d'aller ailleurs, dans mes Pyrénées, on va dire, le berceau de ma famille, où j'ai une maison et où j'ai beaucoup de plaisir à aller. N'empêche que je n'arrive pas à y aller et je n'arrive pas, en fait, à m'arracher à Montpellier. Après, dire quel est le lieu ou le quartier de Montpellier auquel je suis très attaché, c'est un peu compliqué, parce que ceux pour lesquels j'aurais un attachement, ben, ils ont tellement changé que c'est plus tout à fait pareil. J'aimais beaucoup, par exemple, le quartier où j'ai eu mes premières activités professionnelles, c'est-à-dire près de la gare, des Halles Lessac. J'aimais beaucoup cet endroit-là, mais par contre, les lieux que j'aimais là, ils ont tellement changé que je ne les retrouve pas vraiment.
Bien sûr. Alors précisément, vous avez évoqué le changement. Vous avez vu l'un et l'autre la ville grandir, changer. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de son expansion et de ses différentes mutations urbanistiques, sociales, humaines ? Oui, Francis.
Bah, écoutez, c'est évident que là, on rentre déjà davantage dans les critiques. J'ai dit que j'aimais beaucoup mon quartier, mais je ne peux que regretter, par exemple, le niveau de spéculation immobilière qu'il y a à l'heure actuelle. Je vous ai dit que j'habitais donc début du boulevard Renouvier, mais je constate qu'en 20 ans, les prix des loyers ou de l'achat pour une maison a été multiplié par 3 ou par 4. Je constate que des lieux vivants et populaires, comme au début de la rue Adam-Crapone, il y avait la Friche de Mimi et le théâtre La Vista, ont été démolis pour mettre en place un projet urbanistique avec plus de 130 logements.
De promotion immobilière.
De promotion immobilière. J'ai des inquiétudes fortes sur, disons, le côté, la place Chaptal, puisque les impôts sont partis, la MSA est partie, Groupama est partie, et il y a un terrain énorme qui est un enjeu phénoménal. Ouais. Et tel que je vois l'évolution de Montpellier, où le moindre petit creux donne lieu à une construction, c'est-à-dire que la bétonisation avance. Et franchement, la réalité à Montpellier, on se rend compte que je dirais, les promoteurs immobiliers et le BTP ont une place royale, centrale dans la vie locale. Et ça, c'est un problème majeur.
Est-ce qu'il y a un autre phénomène complémentaire qui est ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire le fait dans ces quartiers populaires, les phénomènes que vous décrivez, de hausse du coût tant des loyers que de l'achat, fait venir des populations différentes, de niveaux sociaux différents, aux dépens des habitants qui étaient là. Est-ce que vous constatez aussi ce même phénomène ?
Bien sûr, c'est une évidence. Les uns ou les autres, vous pouvez aller rue du Faubourg du Coureau, c'est une évidence, et même dans les petites rues autour de la Carmagnole. Alors, qu'il y ait des rénovations, ça je peux l'entendre. Je ne suis pas pour défendre là des vêtements vétustes et autres. Mais la logique qui tout de suite suit, qui est l'augmentation des loyers, l'augmentation de tout, fait que, évidemment, on a des modifications de population et on a des modifications de quartier importantes. Je prends l'exemple de la Faubourg du Coureau, qui, pour moi, est l'évidence claire et la plus simple pour ceux et celles qui nieraient le fait qu'il y ait gentrification.
Et alors vous, Fred Allard, même un point de vue en partie convergent ou plus nuancé, est-ce que l'élan de la ville, bon, il y a un élan démographique d'ailleurs, qui détermine bien sûr beaucoup de choses ensuite, bon, à la fois sur le plan du logement et sur le plan des équipements publics, votre regard ?
Oui, il est tout à fait convergent avec celui de Francis. Après, on est soumis à une question à laquelle les élus de toute façon de la ville sont soumis aussi, c'est-à-dire comment on fait pour accueillir une population croissante et qu'il n'est pas question de récuser, et en même temps avoir une urbanisation qui elle-même soit supportable sur tout un tas de critères. Alors, évidemment, comme je pense comme beaucoup de Montpellierains, d'habitants de cette ville qui sont depuis assez longtemps, on va dire.
Vous faites partie des nombreux néo-montpelliérains qui sont là depuis 20 ans ou 30 ans. Donc,
comme beaucoup de vieux néo-montpelliérains, on dira, je n'ai pas un goût immodéré pour l'urbanisation de la ville, notamment vers le sud, et le type d'architecture qu'on y trouve. Mais au-delà de ça, ce qui me semble être quand même l'absence de lien social, en tout cas un grave déficit de lien social. Alors je ne sais pas si ça permettra de faire une liaison ou si c'est un petit peu trop tôt, mais je pense que par contre, on a encore, en tout cas il existe des lieux qui permettent ça, au moins dans les faubourgs montpelliérains, comme celui de Figueroles. Et ça, par contre, ça fait partie des choses auxquelles
à préserver
et auxquelles je suis attaché. Et donc j'espère qu'elle permettra de constituer en tout cas des vrais cœurs d'attraction pour l'ensemble des Montpellierains et pas uniquement pour ceux qui vivent dans le quartier en question.
Eh bien, vous avez fait fournir vous-même la transition avec la deuxième partie de l'émission. On va donc parler de la Carmagnole et commencer par le commencement. Comment cette idée est-elle née et de quelle analyse ou de quelles envies est-elle issue ? Qui veut bien démarrer là ? Fred.
Alors, je vais le faire, pour ainsi dire, comme historien, parce que, pour corriger un tout petit peu quelque chose, je ne suis pas strictement un fondateur de la Carmagnole. Je suis arrivé quelques mois après sa création. Donc, je ne vais pas faire
vous
de...
Vous n'étiez pas bon, sur le berceau, mais enfin, l'enfant courait à
voilà,
peine. Là.
Voilà, exactement. En fait, ce qui se passe... la Carmagnole, il faut le dire, hein, c'est un lieu qui naît d'une effervescence politique. Il naît de l'effervescence politique qui suit l'élection présidentielle de 2017, et où, autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, se sont constitués des groupes d'action. En tout cas, il y a eu une attractivité militante auprès de, notamment de jeunes qui avaient un rapport à la politique, en tout cas, si ce n'est distant, en tout cas, qui n'étaient pas liés à des formations politiques et qui ont trouvé dans cette candidature un espoir. Personnellement, je n'étais pas impliqué de façon militante dans cette campagne, mais en tout cas, on a pu l'observer dans les lendemains, avec ce qu'ils ont porté comme espoir, mais aussi comme déception, hein, puisque ça n'est pas allé au-delà du premier tour de l'élection présidentielle. Je parle bien de 2017. Il y avait un besoin, en tout cas, de poursuivre quelque chose qui puisse permettre à des alternatives d'exister, de se nourrir, de se cultiver auprès des gens qui s'étaient regroupés à ce moment-là. Je pense, même si je ne l'ai pas vécu personnellement, que ce que j'ai compris, c'est que la Carmagnole, elle est née de ça. Et à peine née de ça, elle a aussi voulu ne pas être un lieu d'un mouvement politique, d'un parti, mais de poursuivre effectivement l'idée des alternatives, de cultiver des alternatives dans des tas et des tas de domaines. Et c'est ça qui a constitué à la fois, enfin, je pense, son originalité et sa richesse, et en tout cas son succès.
Alors précisément, bon... vous connaissez l'un et l'autre, la proportion, la facilité de coller des étiquettes, notamment des étiquettes « Ah oui, mais donc tu es affilié à tel parti ou telle organisation ». Francis Viguier, là, comment cette voie-là, clairement orientée à gauche, mais ouverte, je dirais, comment s'est-elle traduite comment, même s'il peut y avoir, on peut imaginer qu'il y a eu quelques difficultés ou des discussions internes sur ce genre de sujet, mais le cap a été maintenu, me semble-t-il. Et qu'est-ce qui a fait que ce cap soit maintenu au moment où les classifications, les clivages sont allés croissants ?
Écoutez, bon, déjà, il faut reprendre l'ensemble. Je dirais qu'il y a une première chose qui est le choix de ne pas demander de subventions municipales et de subventions publiques. C'est-à-dire un choix de l'indépendance dès le départ, qui va dans le même sens, qui est de se dire, bon, nous, on est des grands garçons, des grandes filles, on va réussir à faire par nous-mêmes. Avec un système de coopérateurs, coopératrices, qui font le choix de donner une cotisation mensuelle qui permette à la Carmagnole d'exister, d'inviter des gens, de réaliser des projets. Et après, je pense que... avec ces coopérateurs, coopératrices, à partir du moment où vous avez une sphère large, d'une certaine façon, évidemment...
Combien, là, grosso modo,
coopérateurs ? 150.
150.
Il hein. Bon, y a eu un peu plus.
Bon, il y a des gens qui sortent, des gens qui arrivent, voilà. Bon, dans ces
zones-là. Autour de 150.
Donc, cette espèce de base et qui est là, le socle d'un travail collectif, en définitive.
Qui est le socle d'un travail collectif et, évidemment, je dirais encore plus dans la période que nous vivons ces dernières années, ce ne serait pas exactement la même chose les années 70 ou les années 80, où je dirais, dans la société, il y a moins de certitudes qu'auparavant, enfin, sur les orientations politiques, les orientations portées. Évidemment, il y a de la diversité et des attentes différentes. C'est, je pense, qu'on a essayé de traduire sur deux aspects. Un aspect qui était évidemment les débats, avec dans les débats les personnalités que nous invitons, et les thèmes choisis sont divers, qui peuvent aller des questions d'actualité à... ouais, ben voilà, sur l'éducation, par exemple, on a eu invité Laurence de Coq. Là, prochainement, on invite Roger Martelly sur la gauche. On vient de faire les 40 ans de la marche de l'égalité. On a eu une question sur la Palestine. Donc, une diversité, mais dont l'utilité, et je pense que c'est ce qui est reconnu aujourd'hui comme lieu incontournable, comme lieu utile, qui dépasse même les seuls promoteurs locaux. Qui est un besoin social sur la ville, un besoin politique d'un lieu comme la Carmagnole qui permet d'exprimer, de débattre ou aussi, sur le plan culturel, d'avoir des concerts, du théâtre et des rencontres. où là aussi, autre choix important, qui était la question de la gratuité, que pour nous, l'accès est total. Alors évidemment, après, s'il y a des musiciens ou autres, ou si ça coûte trop cher, on passera un chapeau. Mais en tout cas, on ne met pas de barrière à l'accès à la Carmagnole. C'est-à-dire que c'est un lieu ouvert, ouvert sur les débats, sur la culture. Voilà, c'est un peu ça la démarche.
Alors, Frédéric, précisément, est-ce que c'est pas là, bon, sans en avoir l'exclusivité, mais un espace de débat ouvert où la part de la confrontation des idées, de la controverse, voire du contradictoire à sa place, est-ce que c'est pas cet ADN tel qu'il se perpétue, là, qui singularise, hein, qui caractérise la Carmagnole par rapport à, au débat public à Montpellier et aux lieux, aux espaces dans lesquels ce débat public s'organise?
En tout cas, c'est un lieu où ce type de débat peut être librement organisé. Et en clair, c'est pas on peut avoir des débats on peut trouver des débats contradictoires dans cette ville, mais ils sont institutionnellement organisés quand ils ont lieu. Là, en l'occurrence, ils sont librement organisés par nous-mêmes, voire éventuellement par d'autres.
La Carmagnole est dire, également ça, il y a ce que vous organisez dans le programme et ce que vous accueillez. Tout à fait. Pas n'importe comment, on l'imagine, pour bien comprendre. Que l'ouverture, pour le coup, en tout cas la curiosité telle qu'elle s'exerce.
Voilà. Nous, coopérateurs de la Carmagnole, nous essayons d'être attentifs, vigilants sur ce qui se passe dans la société, et en l'occurrence dans notre ville. Mais bon, on n'est pas infaillible, et puis il y a des tas d'autres phénomènes dans lesquels on est plus ou moins impliqué, plus ou moins au courant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la Carmagnole est sollicitée, elle est repérée, identifiée comme le lieu où ça peut avoir lieu, où ça peut se passer. Il y a quelques exemples, les premiers qui me viennent à l'esprit sont le fait que, c'est tout à fait symptomatique, mais au moment du mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement qui se déroule en extérieur, sur des ronds-points, quand il s'agit pour les différents militants, les personnes qui se sont découvertes des militants à ce moment-là, Gilets jaunes, et qui étaient sur des ronds-points d'hiver, pour se retrouver, pour avoir des échanges entre eux, il fallait trouver un lieu. Or, ce lieu, ma foi, si ce n'était pas la Carmagnole, c'était difficile à trouver. Comme par hasard, ça a été la Carmagnole. Et des lieux, sur des opportunités comme celle-là, la Carmagnole, finalement, a répondu présent à de nombreuses reprises. Récemment, nous avons accueilli l'avenue de Salah Hamouri parce qu'il n'y avait aucune salle municipale apte à accueillir un personnage qui réclame, je dirais, une certaine jauge de salle. Et celle de la Carmagnole, d'ailleurs, était loin d'être suffisante. On a dû mobiliser ce qui est exceptionnel, la salle du haut et la salle du bas, pour l'accueillir. Mais nous avons des tas d'événements de ce type qui ont pu, qui se sont tenus à la Carmagnole. Et où, justement, on est ce lieu, je ne sais pas s'il est unique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est rare.
Et du coup, alors, je pense que c'est ce que vous avez vécu et avec plaisir, mais même s'il y a beaucoup de boulot à la clé, une espèce de, comment dire, d'inscription de la Carmagnole dans la vie montpelliéraine, dans le débat, notamment, bien sûr, à gauche, et donc de remplir un rôle très important. Surtout comme, bon, je le rappelais tout à l'heure, les petits compartiments, les classes, les sous-classes, les tribus, les sous-tribus, font obstacle, je dirais, à la liberté de circulation des idées et des opinions, quoi. Donc, est-ce que, justement, j'allais dire, mon Carmagnole, c'est un endroit d'intérêt public, quoi. Vous ne voulez pas de subvention publique, hein. C'est très bien, vous avez gardé le cap de cette indépendance, mais il y a cette fonction-là que, de fait, au fil des années, la Carmagnole a qui ?
Ah ben mais c'est deux choses différentes. Le fait de ne pas demander de subvention publique, c'est un choix de se garantir une indépendance. Bon, je pense qu'il ne s'agit pas de critiquer tous les gens qui demandent des subventions publiques, mais nous, le choix qui a été fait, c'est un choix d'indépendance et à la fois un choix, je dirais, d'un pari sur le fait qu'on peut, à travers des acteurs bénévoles, faire fonctionner un lieu comme la Carmagnole. Et il ne faut pas sous-estimer faire fonctionner un lieu comme la Carmagnole. Moi, j'estime qu'il faut une bonne trentaine de bénévoles
qui donnent du temps régulièrement.
Qui donnent du temps régulièrement, puisque nous fonctionnons sur la base de 2 à 3 soirées par semaine. Et tout cela, nous faisons des captations. Donc les gens peuvent les retrouver sur la chaîne YouTube de la Carmagnole, mais ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui fassent la captation, il faut des gens qui accueillent, il faut des gens qui aident
gens
à
qui
animer
le
bar.
Alors, et des un gens mot qui... sur le bar associatif, parce que
et,
ça aussi...
Et des gens qui tiennent le bar, puisque bon, nous avons un bar associatif, ce qui permet
aussi...
Alors
ça veut dire quoi un bar associatif,
ben,
concrètement
un bar
comment
associatif,
ça se passe
ben, un bar associatif, c'est un bar qui a déjà une charte, et qui, en lien un peu avec le type de projet de la Carmagnole, et qui permet de nous aider, puisque quand même la Carmagnole est un budget. Il y a, comme tout un chacun le sait, parce qu'il a un logement, ben, un loyer, de l'électricité, de l'eau, des frais fixes. Donc il faut arriver à les payer tous les mois, ce que nous avons fait jusqu'à présent d'ailleurs, rubis sur l'ongle, sans le moindre problème. Mais il faut tout ça. Et donc le bar est une aide. Donc il faut...
Donc on adhère. Pour consommer au bar.
Il faut adhérer,
adhérer
au bar, puisque en gros,
il faut c'est pas un fonctionnement commercial.
C'est pas un fonctionnement commercial classique. Les gens adhèrent aux amis de la Carmagnole. Et je vous signale que maintenant, nous sommes à plus de 4500 et vers les 5000 personnes. Donc, ce qui est un signe du nombre de gens qui sont passés à la Carmagnole, qui sont venus et qui ont participé à une activité. On adhère et voilà, puisqu'en plus nous souhaitons absolument pas, le projet n'est pas d'être un bar concurrentiel avec d'autres bars, puisque nous n'ouvrons que les jours où il y a des activités.
D'accord. Alors c'était un peu là ce qui a déclenché cette vieille idée que j'avais de vous inviter. Donc le 17 novembre prochain, là, ce vendredi à 19h, vous organisez une soirée de soutien. Alors on va expliquer pourquoi. Vous avez des soucis avec le propriétaire des locaux. Et y a-t-il, on m'excusera le jeu de mots, péril dans la demeure. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être Fred Allard va nous le dire. Quel est le souci? Alors, vous êtes locataire, et l'enjeu, c'est le renouvellement du bail, c'est ça. Et alors, où en êtes-vous?
Alors, la Carmagnole occupe les locaux du 10 rue Haguenau depuis sa création, c'est-à-dire depuis le printemps 2018, à peu près.
Et plus de 5 ans, donc.
Voilà, et son bail arrive normalement à échéance à la fin février 2024.
Dans 3 mois.
Oui, c'est cela.
En gros.
Nous avons, début 2023, nous nous sommes souciés, on va dire, de la question du renouvellement du bail. Et nous avons interpellé, par l'intermédiaire de l'agence qui fait la gestion immobilière du lieu, nous les avons interpellés sur le renouvellement du bail et les conditions de renouvellement du bail. Et nous n'avons pas réussi à avoir de réponse qui puisse nous rassurer sur ce renouvellement et nous permettre d'ailleurs d'envisager les conditions dans lesquelles nos activités pouvaient se poursuivre, y compris en termes d'aménagement.
À ce jour, ça reste flou?
Alors non, ça s'est précisé. Ça s'est précisé puisque début juillet, nous avons reçu une notification comme quoi notre bail ne serait pas renouvelé. Depuis ce moment-là, nous continuons à solliciter un rendez-vous, un contact, un échange avec soit l'agence, soit le propriétaire directement, peu importe. En tout cas, avoir un interlocuteur qui soit légitime pour parler pour les locaux, en tant que bailleur, de façon à comprendre quelles sont les raisons qui s'opposent du côté de notre propriétaire au renouvellement de ce bail. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui le pousserait à ne pas le renouveler? Est-ce qu'il veut vendre? Est-ce qu'il veut louer, augmenter le loyer? Est-ce qu'il y a un problème dans nos activités? Donc nous voudrions avoir des explications de façon à pouvoir réfléchir et assez rapidement répondre pour trouver une solution. Et malheureusement, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas la réponse claire qui nous permettrait
d'envisager des solutions. La base d'une discussion, d'une négociation pouvant éventuellement conduire à un accord ou à un désaccord, cette base-là n'est pas installée.
Pas à l'heure actuelle, pas aujourd'hui, 13 novembre, toujours pas.
Alors donc du coup, l'idée qu'il faut se mobiliser, et le rendez-vous là du 17, alors quel est l'objectif là, Francis Viguet?
Déjà, bon, nous avions essayé quand même nous avions fait une fête au mois de juin sur la place Saint-Lingros, autour du thème Gardarem la Carmagnole, puisque quand même... on n'est pas quand même totalement des perdreaux de l'année, donc on sait quand même qu'il faut, il y a des moments, il faut réagir un peu, il faut bouger. Nous avions pris toute une série de contacts avec des gens du monde culturel ou autre, et nous avions réussi cette fête Place Salengro, qui était un moment important, avec des articles de presse ou autre. Donc là, nous avons un peu remis le couvert, nous avions discuté. Donc nous avons mis en place un comité de soutien qui est composé de
quelques figures marquantes.
De quelques figures marquantes du monde, je dirais, culturel, associatif montpelliérain. Hein, nous n'avons pas fait le choix de mettre les politiques à l'étape où on en est, mais en gros de reprendre les gens qui avaient eu une soirée, une activité avec qui nous avions travaillé. Donc il y a un comité de soutien. Et là, le 17, c'est la soirée ce vendredi, la soirée du comité de soutien, avec donc il y aura des acteurs musicaux comme Roland Ramad, comme le duo Idic, comme Anne Berchon qui fait du théâtre Forum. Il y aura aussi une chorale. Et parmi les membres du comité de soutien, on peut penser comme Alain Plomba, Thierry Arquex.
Alain Plomba, qui a été à la tranchée de Dili, mais qui était là surtout au nom de SOS Méditerranée.
Madame Mazoric pour
l'éditrice.
L'éditrice au Diable Vert. Bon, il y a une série de personnalités qui feront. Et c'est un enjeu important pour nous qui est de relancer sur cette idée simple, qui semble pourtant un acquis sur la ville, que c'est un lieu utile, que c'est un lieu nécessaire. Et que c'est un lieu important pour la vie démocratique à Montpellier.
Oui, comme on a essayé de le démontrer. Alors, un petit mot, parce qu'on l'a un peu évoqué. Outre cette programmation de débats et de rencontres, une programmation culturelle qui a pris différentes formes depuis 5 ans, est-ce que ça aussi, peut-être même Fadala pourra en dire un mot, comment la caractériser, donc, parce que des lieux de spectacle qu'il y en a ailleurs, mais il y avait bien cette idée d'avoir, pour faire simple, de la politique et de la culture dans les activités de la Carmagnole.
Ce qu'on trouve à la Carmagnole, c'est d'une manière générale ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ça veut dire que nous sommes un lieu qui permet, par exemple, à un certain nombre d'artistes de la chanson, nouveaux ou éventuellement relativement anciens, en tout cas, de soit se faire connaître, soit se rappeler au bon souvenir de ceux qui les ont écoutés à un moment donné. Et nos conférences débats, elles ont toujours comme sujet en général des questions qui tournent autour de quelles alternatives au monde dans lequel nous vivons, dans les directions par rapport aux directions qui nous inquiètent. Quand on fait aujourd'hui des débats sur les questions des méga-bassines, on fait donc un débat sur quelles sont les alternatives aujourd'hui à l'irrigation agricole une solution dont tout le monde a compris que c'est plus exactement
une
mauvaise solution, ou en tout cas une course vers l'abîme. Donc c'est toujours à peu près ça qui caractérise les événements qui se tiennent à la Carmagnole. Et à ce propos, je me permets juste de dire, parce que c'est après-demain seulement, pour donner un exemple, nous avons été sollicités, la Carmagnole, pour accueillir après-demain une projection débat du film de Gilles Perret et François Ruffin, Debout les femmes, et c'est une projection de débat en soutien aux grévistes d'Honnête. Les grévistes d'Honnête qui sont en grève depuis plus de 60 jours, et où peut-on trouver aujourd'hui une salle qui permette très rapidement d'organiser une action de solidarité, puisque c'est une action évidemment pour nourrir la caisse de solidarité des grévistes d'Honnête, et en même temps toujours faire en tout cas parler de la cause de ces invisibles du nettoyage, en l'occurrence c'est à la Carmagnole. Et c'est après-demain, mercredi soir à 19h.
Très bien. Alors, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on peut annoncer un ou deux autres rendez-vous là, qui sont prévus dans les semaines qui viennent pour donner aux auditeurs et aux auditrices l'envie de venir, pas seulement vendredi 17 à partir de 19h, mais dans les semaines qui viennent, qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux?
Alors,
Francis, qui veut bien.
Mais Francis complétera, parce que moi-même, je pense que je ne serai pas exhaustif. Mais à part ce mercredi, Debout les femmes pour les grévistes d'Honnête, et évidemment vendredi la soirée de soutien. Jeudi 23, nous accueillons l'historien Roger Martelly, dont le dernier livre s'appelle Pourquoi la gauche a perdu, et dessous pour, et comment elle pourrait gagner. Donc c'est un sujet qui doit intéresser...
De pleine actualité, pour
et
le
de
coup.
Pleine actualité, qui doit beaucoup intéresser un certain nombre d'acteurs, de citoyens qui sont soucieux de savoir si la gauche a un avenir ou pas, et si oui, lequel. Donc ça, ça sera le 23. Nous avons le lendemain, je pense, le 24, une soirée électropoésie. Excusez-moi, j'ai un petit
mal. Bon, on ira sur le site de la Carmagnole.
Et j'ajoute, j'en profite très vite, oui, parce que ça vaut la peine. Le 11 janvier, nous recevrons Monique Pinson-Charlot. Voilà. Mais donc, il y a d'autres choses entre-temps.
Qui est une sociologue. Hein. Voilà. Une sociologue des riches, je dirais. Eh bien, merci, messieurs.
Merci à vous.
Et à une prochaine fois.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serrault.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.